Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette émission Parole au présent, au microphone Claude Julien. Mon invité ce matin, c'est Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour Francine.
Bonjour Claude.
Heureux de vous retrouver.
C'est partagé.
Bien. Alors, aujourd'hui, la péricope, donc, que nous allons aborder ensemble, concerne le rapport à l'argent. C'est un thème important pour Luc, et ça revient plutôt souvent dans son évangile.
Hein? Oui.
Puis annonçons tout de suite que la semaine prochaine, mais ça sera aussi sur l'argent, hein, la parabole de Lazare et du riche, quoi.
Mmh. Oui, et on verra aujourd'hui, comme peut-être la semaine prochaine, que souvent chez Luc, ce qui est en tension, c'est le rapport à l'argent et le rapport aux relations. Il conjugue les deux pour montrer qu'il y a une certaine tension. Alors, c'est un thème, je dirais, délicat plutôt que complexe. Et en plus, ici, on a une parabole qui va avoir quelque chose d'un peu choquant, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui agit avec malhonnêteté dans la parabole. Si vous voulez bien nous la lire.
Donc, c'est en Saint-Luc, au chapitre 16, versets 1 à 13. Jésus racontait à ses disciples. Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir dans leur maison. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à ton maître? » 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis, demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur qui avait agi de façon avisée. « Car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. » Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans une toute petite affaire est fidèle aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été fidèle avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Francine Robert, le moins qu'on puisse dire, à première vue, on est en présence d'une parabole, disons, plutôt choquante.
Oui, et qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est pas tellement l'attitude du gérant qui est choquante, c'est le fait qu'il est louangé. À la fin, le maître fait l'éloge du gérant, comme s'il le félicitait d'avoir commis un acte qui, en tout cas, nous apparaît visiblement malhonnête. Il y a une fraude, là. Et bon, en plus de ce problème spécifique, il y a plein d'autres petits problèmes, entre autres sur les liens entre la parabole et les divers enseignements qui la suivent, qui sont pas très bien harmonisés. C'est des problèmes qu'on va pas tous aborder aujourd'hui. Je veux juste rappeler que la perspective qui me paraît en tout cas la plus pertinente dans le cadre de l'émission, pour moi, c'est d'aborder un texte sous l'angle de qu'est-ce qu'il vient faire dans cet évangile-là. Je poserai pas la question, est-ce que Jésus a vraiment raconté cette parabole étonnante? Je poserai pas la question historique comme telle, mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'évangile de Luc et comment d'autres passages de Luc éclairent ce même thème? la perspective que je vais proposer ce matin, ou la piste d'interprétation, elle est proche de celle qui est proposée par un exégète belge qui s'appelle André Fossion, qui travaille au centre de catéchèse de l'Humanité, qui avait écrit un article dont le titre annonce bien ce que je vais vous proposer comme réflexion. Le titre, c'était « Tromper l'argent trompeur ». Ça me plaît bien. Et on verra que on pourrait lire la parabole comme ça. Ce gérant trompe l'argent trompeur. Il y a plein d'autres problèmes que j'aborderai pas, mais on va se contenter de ça.
Bien. Alors, on va se concentrer peut-être sur l'organisation du texte, le vocabulaire.
Oui, cette parabole qui présente, un vocabulaire pas très fréquent. Sauf pour le premier mot sur lequel j'attire votre attention, le gérant est accusé de gaspiller les biens de son maître. Ça commence comme ça. Le gaspiller, ici, c'est le même verbe que dans la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue gaspille son héritage. Donc, il dilapide, il disperse. Mais la suite du vocabulaire est intéressante. C'est le vocabulaire de l'économie qu'on a ici. Le gérant, le mot qu'on traduit gérant, c'est oikonomos. Alors,
il y a le mot oikos dans
oikos,
ça.
Oikos, oui, maison.
Maison, hein? Maisonnée.
Mm-hmm. Oui, parce que la maison, c'est jamais, surtout dans les sociétés antiques, c'est jamais uniquement le bâtiment. Ça peut être ça, oui. Quand je devrais pas dire jamais, mais ça évoque souvent aussi le groupe humain.
Le groupe humain.
Qui habite cette maison, la famille, les domestiques, les employés, bon. Et donc, c'est la maisonnée. Et oikonomos, c'est la règle, la loi qui régit les manières d'agir. Donc, on a ici un oikonomos, un gestionnaire de la maisonnée. C'est ce mot qui est traduit par gérant. Ça peut très bien se traduire aussi par intendant ou administrateur. Gérant est une bonne traduction. Et donc, le maître va dire à ce oikonomos, rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer. C'est intéressant aussi la traduction liturgique. On voit que c'est tous des mots de la même famille. Hein? Gérer, gestion, gérant. C'est exactement comme ça en grec. Ce qui est traduit gestion, c'est oikonomia, rends-moi les comptes de ta oikonomia, ta gestion économique.
Ta gestion.
Oui. Mm-hmm. Et tu ne pourras plus gérer oikonoméo, un verbe qui, lui, n'a pas d'équivalent en français. On pourrait dire économier, mais bon, ça n'existe pas en français. Mais vous voyez que, donc, c'est très présent, ce vocabulaire oikonomia, nomos, qui nous renvoie à l'économie. Bien que ce soit un vocabulaire assez rare dans le Nouveau Testament, il est très abondant ici.
Bon, et le gérant, bien, il se trouve dans une situation pour le moins difficile.
Oui.
Il perd un bon emploi.
Oui, comme beaucoup de nos contemporains. Alors, il se retrouve devant un avenir qui est pas réjouissant du tout. Il envisage le travail manuel, il est pas assez costaud pour ça. Mendier, c'est déshonorant, donc il cherche autre chose, il trouve une solution et il agit immédiatement. On ne sait pas encore quelle est la solution qu'il a trouvée. Ce qu'on en sait, et c'est intéressant comme façon de construire un récit, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais on sait que ce sera pour être accueilli dans des maisons. Oikos.
Le mot oikos,
oui,
qui revient.
Qui revient, qui est absent de la liturgie, de la traduction liturgique, c'est simplement des gens pour m'accueillir. Mais textuellement, c'est « pour qu'ils m'accueillent dans des maisons, dans leur maison ». Alors, voyez encore comment c'est important, la maisonnée, la maison. C'est donc pour qu'ils m'accueillent, pas seulement sous un toit physique, mais dans des relations aidantes, hein, pour qu'ils me dépannent, ces gens. Alors, sa solution, nous l'apprenons en le voyant agir, c'est-à-dire il fait venir les débiteurs du maître, et il allège leurs dettes. Hein. Il coupe la première dette de 50%, il coupe la deuxième dette de 20%, ce qui est de la fraude, un acte malhonnête, parce que c'est de l'argent que ces hommes doivent à son maître et non pas à lui. C'est pas son argent à lui, c'est l'argent du maître.
Mais il y a quand même des tentatives pour essayer d'expliquer cette opération blanchiment du gérant.
Oui,
là, hein?
blanchir le gérant, oui, il y a des tentatives. Ouais. Pour dire, oh non, le gérant n'était pas malhonnête, vous savez,
c'est ça.
Ce qu'il a réduit sur le billet.
Ce sont les intérêts.
Ça peut être soit les intérêts, certains exégètes vont dans cette direction-là, soit sa propre commission, puisque c'est lui qui autorise les presses, ça aurait été assez légitime qu'il se prenne une commission. Donc, le maître a peut-être prêté effectivement telle somme, mais le débiteur, lui, en doit plus. Le reste va dans la poche du gérant. C'est pas impossible. Tout ça, c'est vraisemblable. C'est avancé par des exégètes sérieux. Pas une majorité, je dois dire, mais sérieux. Ce qui, moi, me rend plus perplexe devant des hypothèses comme celle-là, c'est qu'on ne les trouve que si on veut à tout prix blanchir le gérant, c'est-à-dire dire non, non, il n'est pas fait un net. Parce qu'on est embêté puisque ce gérant sera loué pour ce qu'il a fait. Alors, on essaie de rendre la parabole plus morale, quoi.
C'est ça.
Et pour on ça, veut, on peut
on
trouver...
On veut l'adoucir.
On
hein?
veut... Voilà. Ouais. Et ça a pour effet d'enlever le finalement ce qu'il y a de choquant dans la parabole. Alors, je suis pas porté habituellement à chercher des solutions qui affaiblissent ce qu'il y a de choquant, mais plutôt d'essayer de composer avec ce qu'il y a de choquant.
C'est ça.
D'essayer de voir...
Autrement dit, se laisser interpeller par la dimension choquante.
Oui, tout à fait. Provoquant.
Provoquant.
C'est une parabole
absolument.
Provocante.
Absolument. Alors, ils vont pas chercher à adoucir, puis c'est peut-être sa commission, puis ses intérêts.
C'est ça, exactement.
Ça.
Alors, bon. Je ne veux pas dire que c'est invraisemblable, que ça ne tient pas debout, mais je préfère aller du côté de l'aspect plus provocateur. Donc, le maître fait l'éloge de l'intendant. Ce qui est un peu étonnant, on peut juste se rappeler le verset, et le maître fit l'éloge de l'intendant, du gérant trompeur qui avait agi de façon avisée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le verset 9 qui suit immédiatement la fin de la parabole peut aider à comprendre un peu, peut-être d'une certaine manière, le sens de ce que le gérant a fait. Il y a beaucoup de similitudes dans la construction, c'est très parallèle, le verset 9 et le verset 4. Et c'est le même vocabulaire aussi. Par exemple, le verset 4, « Je sais ce que je vais faire. » Le verset 9.
Le verset 9, c'est « Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. »
Oui, le même verbe « faire » poyen ici, dans les deux. Je continue le verset 4. « Je sais ce que je vais faire pour que, lorsque je serai renvoyé de ma gérance. »
Et au verset 9, « pour que, lorsqu'il ne sera plus là. »
Oui, et le « pour que, lorsque », c'est vraiment la même construction, les mêmes mots en grec. Je continue le verset 4. Donc, « pour que, lorsque je serai renvoyé de ma gérance, ils m'accueillent dans leur maison. » Au verset 9.
« Ils vous accueillent dans les demeures éternelles. »
Et le même verbe « accueillir » et la même construction, « être accueilli par des gens dans un lieu donné. » Donc, on voit que c'est construit de façon très semblable, très parallèle. Alors, on va regarder le verset 9 pour voir s'il peut nous aider à comprendre la parabole. Alors, le verset 9, ça évoque le moment où l'argent ne sert plus à rien, hein, quand l'argent sera plus là. Ça peut évoquer donc la mort de la personne, la mort individuelle, d'autant plus que c'est être accueilli dans les demeures éternelles. Alors, c'est au-delà de la mort. Ça nous rappelle un petit peu la parabole du riche insensé qu'on a travaillé cet été, hein. Qui y ramasse le riche, il veut construire des plus grands greniers, et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, tu vas mourir, hein, ce que tu as amassé, à qui ça va servir? Donc, l'argent ne sert plus à rien lorsqu'on meurt. C'est le même thème dans la parabole de la semaine prochaine. Le riche meurt, Lazare meurt, et on a une scène sur l'après-mort où c'est le riche qui est mal pris, et son argent ne lui sert plus à rien, et Lazare ne peut pas l'aider non plus. Lazare ne lui est d'aucun secours. Alors, c'est un peu ça l'esprit du verset 9. Hein? Faites-vous des amis avec l'argent trompeur maintenant parce que, de l'autre côté, ces amis-là vont pouvoir vous aider alors que l'argent ne pourra pas vous aider. Ça fait quand même étrange. Bon, c'est une invitation au partage, mais qui nous déconcerte un peu puisque le gérant partage avec des plus mal pris que lui. Oui, mais c'est de l'argent qui n'est pas à lui qui partage. Et en plus, c'est pour lui-même se sortir des problèmes. Alors, c'est quand même un peu étonnant, cette phrase de Jésus, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur » en prenant ce gérant comme exemple. Peut-être un petit mot sur l'expression « argent trompeur » ici, c'est le mammon de l'injustice, si on traduisait littéralement. Mammon, un mot araméen qui veut dire les biens, les richesses, qu'on peut très bien traduire par « argent ». Donc, l'argent de l'injustice, hein? Ça aurait pas de sens de comprendre cette phrase-là. Faites-vous des amis pour l'au-delà seulement avec l'argent malhonnêtement gagné. Parce que si je gagne mon argent honnêtement, ça marche plus pour moi, cette phrase-là. Donc, l'argent trompeur ou l'argent de l'injustice, c'est une expression qui qualifie l'argent lui-même comme étant trompeur ou
en soi.
Un trompeur en lui-même. C'est ça. Mm-hmm. C'est pas l'argent malhonnête opposé à l'argent honnête.
Non,
c'est
non.
L'argent est lui-même qualifié.
Et lui-même qualifié de.
De injuste ou de trompeur selon la traduction. Je veux juste rappeler ici pour éviter la confusion que c'est pas injustice au sens limité tel qu'on le comprend dans notre culture, équité. C'est au sens biblique, hein, juste et justice au sens biblique, ça a un sens beaucoup plus large. Juste, d'ailleurs, est assez fréquent dans les évangiles. C'est d'être ajusté aux règles de Dieu, d'être ajusté au projet de Dieu qui nous donne la vie, finalement. Pensez à Zacharie et Élisabeth, hein, les parents de Jean le Baptiste dans Luc. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant tous les commandements du Seigneur. Donc, être ajusté, c'est être juste, c'est vivre selon les règles de vie données par Dieu. Même chose pour Jean-Baptiste, hein, il va marcher devant Dieu avec la puissance d'Élie pour ramener les rebelles à la sagesse des justes. Les justes au sens large, les ajuster au projet de Dieu. Alors, si Jésus qualifie ici dans notre texte l'argent ou le mammon de injuste, adikios, non juste, ça voudrait dire l'argent n'est pas ajusté à la loi de Dieu. Et non pas l'argent commet des injustices au sens restrictif qu'on lui donne. C'est beaucoup plus large. C'est comme si le texte disait, ou l'expression « mammon injuste » disait « l'argent n'est pas ajusté aux règles du jeu qui sont celles de Dieu. Il obéit à d'autres règles. » Alors, c'est plus l'argent désignant les dollars qui sont peut-être dans votre poche, mais l'argent comme système, hein, comme règle du jeu, comme système de normes, c'est ça qui est déclaré non juste. Hein. L'argent fournit pas les bonnes règles du jeu, les bonnes normes de vie. Et dans ce sens-là, la traduction trompeur est tout à fait intéressante. L'argent fausse le jeu. Il nous introduit dans des règles du jeu qui sont fausses. Ces règles qui nous semblent claires, rassurantes, précises, mais sont indiquées comme n'étant pas des règles sources de vie.
Bon, et maintenant, dans l'éloge du gérant, le maître dit qu'il a agi de façon avisée.
Voilà, alors que pour nous, et dans les faits, il a agi de façon malhonnête. Et le avisé est une bonne traduction, c'est celle de la Bible de Jérusalem. C'est la même qu'on trouve à 12:42 dans une autre parabole de Jésus. Quel est donc l'intendant, et encore là le oikonomos, la seule autre fois où ça revient dans Luc, fidèle et avisé. Phronimos, c'est le même adjectif. Donc, j'aime moins qu'on traduise ici par habile, qui pourrait vouloir dire il est un peu croche, mais il s'en tire bien. C'est avisé, tout comme cet intendant au chapitre 12, verset 42, qui est donné en exemple. Il agit d'une façon sage, alors.
Bon, parlons-en
maintenant.
Quelle sagesse. Oui, parlons-en de cette... De quelle sorte de sagesse peut-on parler ici?
Son rôle, l'oikonomos, on l'a dit, c'est faire appliquer les règles pour la maisonnée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait des amis avec l'argent, et c'est cet acte qui est donné en exemple au verset 9, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur ». Ça fait bizarre parce que pour nous, l'argent et les amis, ça va pas bien
ça
ensemble.
Ça va pas ensemble. Hein? Hein,
c'est deux logiques qui fonctionnent pas. C'est pas les mêmes règles du jeu.
Oui. Et on pense à la sagesse populaire. Hein. En affaires, il y a pas d'amis. Des bons comptes font les bons amis.
Ouais. C'est vraiment pour nous deux mondes et ça marche pas ensemble parce que les règles, les nomos, hein, je rappelle, on parle d'un oikonomos. Les règles habituelles qu'on suit dans les relations d'amitié sont différentes des règles de l'argent. En amitié, finalement, c'est des règles un peu plus gratuites. Hein. Je peux rendre un service, c'est jamais totalement gratuit, je peux m'attendre à ce que quelqu'un me rende le même service ou un autre un jour, mais c'est pas garanti, je peux juste espérer un coup de main. On est dans un circuit d'échange plus flou, et avec une marge de risque et de gratuité dans l'amitié. Le don se calcule bien mal, finalement. C'est donné, c'est reçu, ce sera rendu un jour, mais je te le redonnerai. Vous voyez, c'est une circulation de l'échange. C'est basé sur la règle des relations interpersonnelles et le circuit de l'échange. En argent, c'est pas ça la norme. L'argent, c'est calculable, donc c'est remboursable avec précision. La règle de l'argent, c'est ne pas perdre rien. Et au contraire, c'est accumulé et faire du profit. On le voit très bien dans la première lecture de ce dimanche qui vient du prophète Amos. On est mal à l'aise à l'idée de faire du profit sur le dos d'un ami. Donc, en affaires, il n'y a pas d'amis. Parce qu'en affaires, je dois faire du profit. Alors, mieux vaut ne pas faire des affaires avec des amis. Pourquoi? Parce que si les deux systèmes sont ensemble, les affaires et les amis, ce qui va prédominer, c'est la règle des affaires. Donc, c'est la règle de l'argent qui prédomine sur la règle des relations, même en amitié. Alors, vous voyez, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, ça renverse le truc. Hein, c'est ce qu'André Phocion dit en disant que le gérant trompe l'argent trompeur. Il dit, finalement, le gérant transgresse la règle normale de l'argent, qui est la logique de la bonne gestion et du profit. Il la transgresse, cette règle, et il met par-dessus la logique des relations. C'est celle-là qui devient prioritaire. Donc, il trompe l'argent trompeur. Et dans ce sens-là, je trouve que ça en fait un bon oikonomos, au sens étymologique en tout cas, c'est-à-dire un bon gestionnaire de la maisonnée qui est d'abord un lieu de relation, un lieu du vivre ensemble. Et c'est ça qui prime. Malgré le fait là que c'est pour lui et que c'est pas son argent, je pense que Jésus passe par-dessus ça pour le donner en exemple. La logique de l'argent, soumettez-la à la logique de l'amitié, parce que, donc faites-vous des amis avec l'argent trompeur, parce que finalement c'est ça qui est la logique du règne de Dieu. Alors ne vous fiez pas à cet argent trompeur dont l'expression est reprise encore au verset 11. Le verset 13, à ce moment-là, est intéressant pour éclairer tout ça et pour peut-être conclure. On ne peut pas servir deux maîtres, dit Jésus au verset 13. On ne peut pas faire fonctionner ensemble Dieu et l'argent, ou la logique de Dieu et la ou du règne de Dieu, la logique de la relation, et la logique de l'argent. Celui qui est pris entre ces deux logiques, il va toujours en choisir une des deux pour la faire prédominer sur l'autre. Et donc, quelle est la logique à laquelle on veut se soumettre comme domestique pour la société humaine, finalement? Est-ce que ce sera toujours la logique économique? Jacquard qui fait remarquer que toujours les arguments économiques ont le dernier mot sur toutes les autres considérations sociales, sur toutes les autres considérations relationnelles. C'est mis en scène, entre autres, dans le film de Aymon, « Contre toute espérance ». Finalement, comme si l'économique, l'oikonomos, n'était plus au service des sociétés humaines, mais à l'inverse, c'est nous qui devenons au service de l'économie. Bon, c'est évident qu'un commentaire comme ça déborde largement le texte et laisse d'autres problèmes dans l'ombre, mais je m'arrête ici.
Bien, ben je vous remercie beaucoup pour cet éclairage sur ce texte qui est pas facile, comme on le disait en début d'émission. Et voilà, vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal.
Je remercie Alain Primeau à la technique. Au microphone, Claude Julien, qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.